Au Capi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachamou.
Bien, nous parlons aujourd'hui de la contribution des aires protégées dans la lutte contre la pauvreté. Vous savez, les aires protégées existent dans quelques villes du pays, mais ces aires protégées sont butées à d'énormes difficultés de fonctionnement. Ces sites ne sont pas du tout viables pour attirer les visiteurs. Et pourtant, selon les spécialistes, la création de ces aires protégées dans les grandes villes du pays ont une grande importance et peuvent contribuer dans la lutte contre la pauvreté. Alors, comment les aires protégées peuvent-elles contribuer dans la lutte contre la pauvreté? Eh bien, nous allons en parler aujourd'hui avec notre invité. Il s'agit du professeur Jean Dédieu Minengou. Il est vice-doyen chargé de la recherche à la faculté des sciences agronomiques de l'université de Kinshasa. Professeur Jean Dédieu Minengou, encore une fois, bonjour.
Bonjour Jody et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, la radio de la paix.
D'abord, la première question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par aire protégée.
Bon, en termes très simples, les aires protégées, c'est tout ce que vous connaissez, les parcs nationaux, les réserves naturelles, les domaines de chasse, les jardins botaniques, les zoologiques, etc. C'est ça qu'on appelle les aires protégées.
Pourquoi ça s'appelle, on les appelle ainsi?
Mais on les appelle aires protégées parce que ce sont les surfaces qui sont protégées. Qu'est-ce qu'on protège dans ces espaces? On protège la forêt, on protège les animaux et bien d'autres éléments naturels qui peuvent être importants pour la vie socio-économique de population.
Voilà, donc il s'agit des jardins botaniques, il s'agit des parcs.
Des réserves naturelles.
Réserves naturelles, domaine des chasses. Et on en a combien en RDC?
On a un très vaste réseau d'aires protégées. Pour les parcs nationaux, il y avait d'abord 7 qui étaient le plus ancien. Vous ajoutez encore les parcs nationaux de l'Omami, vous ajoutez encore les parcs marins des mangroves qui se sont ajoutés. Vous avez les domaines des chasses, il y en a autour d'une dizaine. Les jardins botaniques et zoologiques, vous en avez 3 jardins botaniques, 3 jardins zoologiques les plus anciens. Et donc ce sont ces aires protégées qui existent en République démocratique du Congo.
Ces jardins sont où? Ici à Kinshasa.
Oui, mais vous avez un jardin botanique à Kinshasa, vous avez un jardin botanique à Yala, vous avez un jardin botanique à Kisantu. Voilà.
Kisantu aussi.
Ok, très bien. Donc, comme vous venez de le dire, Jody, ce sont des espaces qui peuvent jouer un rôle important dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Donc, je voudrais dire que la relation entre les aires protégées et la lutte contre la pauvreté, c'est une relation réciproque. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque les aires protégées et sont très bien gérées, lorsque les aires protégées sont très bien aménagées, mais elles peuvent lutter contre la pauvreté, comme source de revenus, et création d'emplois, etc., etc. Mais aussi, dans les cas contraires, lorsque règne la pauvreté dans une région, et cette dernière peut être un élément négatif pour la survie, ou voire même la viabilité de l'air protégé. Je donne un exemple. Vous êtes dans une région où les gens sont extrêmement pauvres. Les gens vivent des ressources naturelles. Il n'y a pas d'alternative. Ce qui veut dire que la pression sur les ressources naturelles sera beaucoup plus importante et la viabilité de ce qu'on appelle aires protégées, ça peut être un parc, ça peut être un domaine de chasse, la viabilité sera compromise.
Les gens vont couper les arbres, ils vont tuer les animaux.
Exact. Ce qui veut dire que
pour les vendre et
la pauvreté, c'est un élément négatif à la viabilité des aires protégées, mais les aires protégées peuvent également jouer un rôle important pour lutter contre la pauvreté. Il est question, dans ces conditions, de mettre en place quelles sont les stratégies qui peuvent être utilisées pour que les aires protégées deviennent un outil important de lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo. Mais les aires protégées peuvent, comme je l'ai dit, ça peut jouer un rôle important dans la création d'emplois. Lorsque une aire protégée, elle est très bien aménagée, elle est très bien gérée, mais cette aire protégée crée des emplois pour les jeunes, cette aire protégée constitue une source de revenus pour les gens, et sur le plan même environnemental, mais les aires protégées sont là pour exactement protéger tout ce qu'il y a comme biodiversité, tout ce qu'il y a comme élément naturel pour le développement socio-économique d'un pays, ou soit d'une province ou d'un territoire.
Donc, concrètement, comment est-ce qu'on peut arriver à créer des emplois grâce à ces aires protégées?
Je voudrais être très clair. Comment les emplois peuvent être créés à travers une aire protégée. Vous avez les jardins botaniques, par exemple. Parce que dans la ville de Kinshasa, ça, c'est plus un jardin.
Qu'est-ce que c'est devenu?
C'est d'abord l'emplacement, la croissance démographique, la pression sur la terre du jardin. Et ça fait que cet espace qui était créé déjà vers les années 30 a perdu toutes ses caractéristiques. Donc, il est important aujourd'hui.
Mais les espèces.
Oui, quelques espèces.
Quelques
espèces subsistent. Mais il faut voir les choses. Parce que ce jardin a été créé vers les années 36, vers les années 30. Donc, aujourd'hui, ces jardins ne tiennent plus debout, compte tenu de la croissance démographique, compte tenu des exigences, de la pression.
Les magasins qui se sont.
Vous avez des magasins
construits tout autour.
Vous avez des magasins de tous côtés, vous avez les marchés, et finalement, c'est une confusion totale. Oui. Donc, il est aujourd'hui.
Ça ne répond plus aux normes.
Ça ne répond plus aux normes, ça ne répond plus aux besoins même de la population, parce qu'il y a très peu de gens qui peuvent quitter chez eux pour aller, parce que ça a perdu les caractéristiques du jardin. Lorsque dans la ville de Kinshasa, on peut créer un nouveau jardin, mais ça va être une source de revenus. D'abord, pour les jardins qui existent, il y a des gens qui travaillent, vous avez des emplois qui vont être créés, c'est comme nous appelons les emplois directs, des gens qui vont s'occuper de la gestion quotidienne du jardin, etc. Mais vous avez aussi des emplois indirects pour les gens qui vont venir visiter les jardins. Vous avez des gens qui les accompagnent, qui vont être
placés. Il y a les jardins botaniques et les jardins zoologiques aussi à côté.
Bien sûr, vous avez les jardins zoologiques. Donc, la création ou la réhabilitation de toutes ces infrastructures que nous appelons aires protégées en République démocratique du Congo, ça peut être une source de revenus importante, pas seulement pour l'État congolais, mais ça peut créer des emplois à travers les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Vous avez les pays comme les Kenyans qui mobilisent les milliards seulement en termes du tourisme. Parce que les aires protégées, les parcs nationaux, ce sont des grands sites touristiques. Mais aujourd'hui, chez nous, ça ne rapporte pas suffisamment de ressources à cause de tout ce que vous avez dit. Il y a la question de l'insécurité, il y a la question du manque de moyens pour que les aires protégées soient gérées avec beaucoup plus d'efficacité, avec beaucoup plus d'efficience. Ce qui fait aujourd'hui qu'il n'y a pas suffisamment beaucoup de touristes qui viennent. Mais finalement, en Afrique, Virunga devrait être en fait la première destination des touristes.
Le parc de Virunga.
Bien sûr, c'est un bijou, c'est un parc extraordinaire. Mais la question de l'insécurité a fait que depuis des années, c'était devenu finalement un mouroir et personne ne pouvait prendre des risques. Je crois qu'avec les efforts qui sont en train d'être fournis aujourd'hui pour pacifier la région, le parc de Virunga jouera un rôle important à ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, la création des emplois pour les jeunes dans la région, et ça sera extrêmement important. Donc, ce sont des outils que le pouvoir public, les acteurs de la société civile et tous les partenaires techniques et financiers de la République de Congo devraient fournir des efforts pour que ces aires jouent le rôle nécessaire pour la création des emplois et pour la lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit,
ça favorise la création des emplois.
Bien sûr.
Et lorsque les touristes viennent visiter ces parcs,
il y a des revenus.
Et
sur le plan environnemental, mais c'est la conservation. Vous avez des forêts qui sont conservées, vous avez des espèces animales et autres, et vous avez des recherches qui peuvent se faire également. La lutte contre la pauvreté, elle est multisectorielle. Je crois que dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté que le président de la République avait lancé le 16 octobre, on décrit, on explique clairement qu'il s'agit d'une lutte où plusieurs secteurs doivent être mis en jeu pour pouvoir juguler la. La fois dernière, j'étais très content parce qu'on avait abordé la question de l'agriculture comme secteur qui peut également lutter contre la pauvreté. Aujourd'hui, on parle de ce que nous appelons les aires protégées. Donc, il y a plusieurs secteurs en République démocratique du Congo qui peuvent être mobilisés pour combattre la pauvreté en République démocratique du Congo et apporter des réponses claires aux différents problèmes de la société.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Melado nous appelle depuis le Haut-Twélé. Il est à Aba. Pierrot Pagna, vous êtes à Lubumbashi, Kachai, à Kanyoka. Nous parlons de la contribution des aires protégées dans la lutte contre la pauvreté en RDC. Vous voulez participer? Appelez au
081-890-6394. Radio Okapi.
À Beni.
Okapi. Sur 92 FM.
Bien. Nous allons accueillir les auditeurs. Melado, vous êtes à Aba, dans le Haut-Twélé. Bonjour.
Oui, bonjour, la radio Okapi. Bonjour à tous les auditeurs.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux aires protégées qui peuvent jouer un rôle dans la lutte contre la pauvreté.
Merci beaucoup. Le sujet est très capital. Actuellement, il y a un couteau tiré entre la population riveraine du parc national de la Garamba, c'est-à-dire les trois territoires, je cite Nyangara, Dungu et Farage, là où je suis. Pourquoi ? Parce que la population riveraine ne profite pas du parc national de la Garamba. Et il y a vraiment un couteau tiré. Alors, avant de poser ma question à l'invité, je voudrais d'abord savoir l'importance de ces aires protégées. Parce que bien qu'il a partagé, il a expliqué, je n'ai pas bien compris. Pourquoi ? Parce qu'il y a des richesses vraies qui se trouvent au parc, aux alentours du parc, mais la population riveraine est très pauvre, très pauvre. Elle ne profite même pas de ces richesses-là. Alors, ma question est de savoir, il y a beaucoup de parcs nationaux, il y a des aires protégées. Est-ce que depuis qu'on a créé ces parcs nationaux, y a-t-il vraiment en concret quelque chose qui a emporté pour bénéfice de la population riveraine dans ces parcs? Si oui, lesquels? Parce que je sais que dans le parc national de Garamba, il y a les rhinocéros blancs qui sont là. Qu'est-ce qu'on a fait de ces rhinos pour emporter un peu la richesse, les bénéfices ou encore un intérêt public pour la population? Voilà un peu ma question à l'invité.
Merci Melado. Pierrot Pagna, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour à notre invité et à tous les okapistes qui me suivent.
Alors, dites-nous, à Lubumbashi, vous avez des parcs, vous avez voilà, des aires, vous avez même des jardins où les gens peuvent aller, que les gens peuvent aller visiter.
Je vous dis, qu'ici à Lubumbashi, même les écoles, l'invité lui-même ne va pas me contredire parce que toutes les écoles de la place donne la chance aux élèves d'aller fréquenter les zoos, comme nous avons les zoos de Muyambo, partout. Il y a des zoos, il y a des parcs aussi qui fonctionnent ici dans notre province. Mais je vous dis que, si vous observez ce qui se fait dans notre pays, bon, nous plairons. Pourquoi? Nous avons notre pays, je vais vite... Parce que c'est le secteur que l'invité dit que ça peut encore produire beaucoup de
générer des recettes. Oui.
Oui. Maintenant, nous trouvons, vous avez la ville comme Vivi, une ville historique où la RDC avait vu sa première capitale là-bas. Mais allez, j'envoie d'abord notre invité d'aller visiter cette village que nous avons vu, appelé peut-être capitale de notre pays. Mais c'est alarmant, ça, quand même, je dis. Il nous a dit de part que l'insécurité, nous savons que le tourisme est en train de nourrir de grands pays européens aujourd'hui, qui n'ont pas beaucoup de moyens économiques, mais qui vivent grâce à des parcs de tourisme comme ça. Nous avons l'endroit où notre héros national avait été tué ici à Lubumbashi. L'ancien gouverneur qui était là avait essayé même d'initier d'autres moyens ici à Lubumbashi. Ils ont commencé à préparer ça. Mais après son projet,
Pierrot, je sais que là-bas au Katanga, vous avez même vers Lubumbashi le parc de Futuka, où les gens pouvaient aller visiter et voir même les animaux.
Ici, je vous dis que cette histoire est là. Nos enfants n'ont pas de difficultés à voir des animaux, mais ce qui se fait, comme nous voyons que comme c'est la politique qui est à ce moment, on prend le parc peut-être d'un politicien pour ne pas citer des noms comme ça. Quand il n'est pas peut-être du côté de la majorité, on pille tous ses biens, mais nos enfants là sont préjudiciés. C'est la sécurité que nous allons parler.
D'accord.
L'invité a dit, ou c'est quoi encore, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur ça?
D'accord.
Qu'est-ce qu'il peut nous dire aussi que cet espace qu'il est en train de dire, l'air libre, c'est l'air libre là. Qu'est-ce que ça peut aussi nous faire pour que les gouvernements soient en mesure de voir, de recadrer ce qu'ils ne parviennent pas à faire aujourd'hui. Je dis et je vous remercie.
Merci. Kachai, vous êtes à Kanyoka. Bonjour. Et quelle est votre question par rapport au thème du jour?
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama, et bonjour à l'invité.
Bonjour.
Monsieur Jody, si par exemple ailleurs, les gens sont en train de se lever quelques exemples par rapport au parc qui existe, mais à Kananga, c'est déplorable dans le Kasaï central, monsieur Jody.
Pourquoi,
nous n'avons pas de site touristique.
Il n'y a, pas de jardin botanique, jardin zoologique à Kananga.
Monsieur, je dis, j'entends seulement des termes là par les noms, mais je n'ai jamais vécu ça.
D'accord. Quelle est votre préoccupation là?
Oui, ma préoccupation, c'est que vous voyez que nous sommes au Congo, mais on nous parle de certaines choses, jardin botanique, à l'école nous avons appris tout ça, mais nous n'avons jamais vu. Nous parlons seulement comme ça. Donc c'est déplorable pour nous les enfants congolais qui menons la vie en total dénuement. C'est l'État qui ne nous permet pas de mener cette vie aux conditions exigées. Le pays comme le Kenya, monsieur Jody, c'est un pays qui vit du tourisme en dehors du Lipton, l'été qu'il nous produit là. Il y a encore le tourisme fait vivre le pays. Mais ici chez nous, vous allez constater que les gens se lancent beaucoup plus dans la politique. Certains secteurs qui peuvent régénérer les recettes pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations, ces secteurs-là sont négligés. C'est ainsi que je voulais seulement demander à l'invité. Parce que les gens qui vont à la chasse, ils chassent les bêtes, ils tuent sans aucun respect réservé. Ceux qui font des champs, ils coupent des bois. Aujourd'hui, là, nous connaissons un problème de changement climatique à cause de la coupe du bois sans aucun respect réservé à la coupe du bois.
Oui.
Nos forêts sont devenues maintenant de... Donc, il n'y a plus de forêt pour bien dire, il n'y a que la savane.
Oui.
Alors, c'est pourquoi je voulais au moins tout simplement demander à l'invité. Parce que quand on octroie des hectares à ceux qui sollicitent pour cultiver, il y a des normes qu'on impose pour respecter. Alors, est-ce pour octroyer des forêts à ceux qui les sollicitent, y a-t-il quand même quelques lois, par exemple les codes forestiers, je ne sais pas s'ils existent, quelques lois mises d'abord à la disposition de ceux qu'ils sollicitent pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent nécessairement faire.
D'accord,
deuxièmement,
d'accord.
Les populations riveraines de la rivière Lulua, quand ils vont au champ, monsieur Jody, il y a des hippopotames qui sortent, et au lieu qu'ils contemplent, ils rentrent plus vite. Non, nous sommes dans l'insécurité, on ne sait pas faire de champs, nous sommes menacés. Alors, il faudrait que les chasseurs aillent menacer maintenant les hippopotames pour les tuer. Comment l'État peut entrevoir des mesures pour pouvoir non seulement sécuriser les populations, mais permettre aussi qu'ici à Kananga, nous puissions connaître aussi des sites touristiques. Les Blancs ne viennent pas. Même les Africains ou autres, d'autres pays, ils ne viennent pas pour aussi contempler la vie à Kananga. À cause du manque des sites touristiques et des jardins botaniques.
Merci.
Même le musée, nous n'en avons pas.
Voilà.
Les eaux, je ne connais pas d'autres bêtes, monsieur Jody.
D'accord,
mais les entends seulement par les noms. Je ne peux pas aussi les voir.
D'accord, ça viendra certainement. Alors on va accueillir Jérémy Mwamba de Lumbashi et Glody de Bandundouville. Quelle peut être la contribution des aires protégées dans la lutte contre la pauvreté en RDC? C'est le thème que nous abordons aujourd'hui dans Okapi Service. Jérémy Mwamba, bonjour.
Oui, bonjour monsieur Jody, bonjour également à notre invité. Je pense que ce sujet vaut son pesant d'or parce que vous savez qu'il se passe un long moment où notre pays n'arrive pas à mettre une bonne politique dans ce secteur. Vous savez, le président se lance dans la bataille pour la lutte contre, bien évidemment, la pauvreté, mais vous êtes pas prêt. Ce point n'est pas seulement lié à un seul secteur, hein. Il est à la fois multisectoriel. C'est là que je voulais dire quelque chose qui semble vraiment fâché, parce que vous êtes dans, nous sommes ici, par exemple, à Lubumbashi. Il y a les jardins zoologiques et nous avons les jardins botaniques qui profitent bien à plusieurs personnes, bien sûr, dans cette ville. Mais on se rend compte que parfois ce sont les aires protégées là qui sont la cible pour les hommes forts de ce pays. Vous trouvez par exemple un monsieur qui construit tout autour de ce site. Je me demande qu'est-ce qu'on cherche au juste. Je pense qu'il revient à nos autorités lorsqu'il y a des aires protégées. Et d'ailleurs, notre pays est totalement riche en termes de potentialité sur le plan richesse, donc que ce soit pour le sous-sol tout comme le sol. Alors, il revient maintenant de mettre une politique sur place, en place, question de pouvoir promouvoir donc ce secteur où plusieurs peuvent profiter à quelque chose pour notre pays.
D'accord.
Vous savez, si on essaie un peu de mettre sur place une bonne politique, on peut attirer beaucoup de gens qui viennent pour faire le tourisme dans notre pays et ça peut profiter à notre pays. On ne peut pas attendre seulement les impôts, tracasser les chauffeurs et aller dans tous ces domaines. Non, on doit chercher aussi parce que si on essaie de mettre de l'ordre dans ce secteur, ça peut profiter et il y aura quelque chose qui peut entrer dans notre pays. Je suis allé un peu faire un tour à Kolwezi. Je vous dis vraiment, c'est vraiment alarmant. C'est vraiment triste. Les terrains qui étaient réservés pour les petits-enfants, pour les jeux pendant les vacances, c'est vraiment envahi par les sociétés, envahi par les hommes forts de ce pays. Je suis en train de me dire jusqu'où nous allons avec cette politique parce que toutes les aires, tous les espaces sont presque occupés par les lotissements anarchiques. Et je me demande qu'est-ce que le ministère de l'Habitat, tout comme donc en termes de foncier, est en train de faire dans ce pays. Parce que je vois qu'on engage un certain désordre qui ne dit pas son nom. Et pourtant, la lutte est que la pauvreté disparaisse. Parce que si on essaie de licencier tous ces gens, c'est-à-dire ils reçoivent un licenciement, je ne sais pas, tout ça, ça peut ne pas profiter à notre pays et il y aura un chômage et jusque-là, la pauvreté va encore augmenter. Nous sommes en train de lutter pour que notre économie soit boostée. Mais voilà que ce secteur n'est pas... On n'essaie pas de promouvoir ce secteur. Il revient maintenant à nos autorités congolaises de prendre à bras les corps ces choses qui sont d'imprimer une certaine politique.
Merci, Jérémy. D'accord. Merci, Jérémy. On va donner la parole à Glody de Bandundouville. Bonjour, Glody. Quelle est votre question?
Oui, bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour également au grand professeur Jabidi Mulengo, et bonjour également à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quelle est votre question, Jérémy? Pardon, Glody.
Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Ici, dans la ville de Bandundu, nous avons un problème de l'écologie, nous avons un problème de la biodiversité. La biodiversité est en danger. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qu'on va, on ne peut pas vendre. Normalement, cet endroit-là, depuis la belle époque, les Blancs ont laissé ça pour les endroits touristiques ou les aires protégées. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus et on a tout vendu. Alors, nos enfants qui naissent, on n'arrive pas à comprendre un enfant qui naît, qui n'a jamais vu même un hippopotame, il le voit seulement au niveau de la télévision. Et ici, dans la ville de Bandundu, il n'y a pas même de zoo, il n'y a pas même de parc, tout ça. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire exactement dans ces problèmes. Alors, je pose la question au professeur. Je sais que lui, il est chercheur, il peut donner des pistes de solutions, enfin notre pays puisse quitter à cet état que nous sommes. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire exactement pour éradiquer ces problèmes sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Je sais bien que lui, il est chercheur, il peut mener des recherches normalement et proposer ça au gouvernement. Je pense que le gouvernement va donner aussi une solution. On va quitter à ce stade. Parce que dans notre pays, nous avons beaucoup de grands professeurs ici au Congo. Mais on revient à toute chose. À chaque chose, on parle tellement de telles choses. Nous devons donner des solutions qui sont concrètes.
D'accord, c'est merci.
Quand nous traitons un problème de la biodiversité,
oui,
nous devons faire des études afin de trouver une solution. Et encore, on trouve encore une autre problème.
Merci Glody. Merci Glody. Que peut être la contribution des aires protégées dans la lutte contre la pauvreté en RDC? Professeur, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs?
Merci. Je commence par Glody. La biodiversité en danger, pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais partout en République démocratique du Congo.
Même les aires protégées sont menacées. Il y a une forte pression sur les aires protégées.
Quand vous arrivez au niveau du Bas-Congo, le parc marin et mangrove est en danger. Donc, toutes les aires protégées en République démocratique du Congo sont en danger. C'est pourquoi en novembre 2018, la faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa avait organisé un atelier sur les aires protégées qui étaient inscrites sur la liste du patrimoine mondial en danger. Il y en avait 5. Mais ça, c'est de façon globale. Mais logiquement parlant, toutes les aires protégées dans notre pays sont en danger et sont en péril. Alors, il y a beaucoup d'enseignants, il y a beaucoup de profs, mais les problèmes de la société ne sont pas vus. Vous avez pleinement raison. Je crois que la capacité de nous en tant qu'enseignants, ce n'est pas de faire des déclarations lorsqu'il y a un congrès d'un parti politique, mais la capacité d'un prof aussi, c'est d'être capable de solutionner les problèmes de la société, d'apporter des réponses claires et objectives au problème de la société. Ça, c'est très important. Que oui. faut-il faire? Là, je réponds directement à notre ami Jérémy qui dit les gens construisent partout, les pays ont beaucoup de potentialités, mais la population est très pauvre. Je voudrais demander à tous ceux qui nous suivent maintenant, quand vous lisez le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté, on énumère clairement les causes de la pauvreté en République démocratique du Congo. Un pays doté de beaucoup de ressources, mais avec une population ultra pauvre, avec une population de mendiants, Pesangai, Sombelangai. Pourquoi? C'est parce que nous avons développé les antivaleurs dans ces pays. La corruption. Les trafics d'influence, les détournements des deniers publics. Mais comment voulez-vous, dans une société où les antivaleurs ont été érigés en valeur, on ne pouvait avoir des pauvres. Parce que ces antivaleurs profitent à une minorité de gens qui fait en sorte que la majorité de la population se trouve maintenant dans la précarité. Donc,
mais quelqu'un a dit tout à l'heure que souvent les populations riveraines autour des parcs, des aires protégées, ces populations sont dans une pauvreté extrême. Et ces gens ne profitent pas de ces espaces-là.
Oui, oui, mais c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui que beaucoup d'aires protégées sont en danger parce que les populations riveraines ne trouvent pas d'intérêt auprès des aires protégées. Tant que, les populations qui entourent les aires protégées seront dans la misère, dans la pauvreté la plus totale, tout ce que nous avons comme biodiversité, tout ce que nous avons comme élément naturel qui se trouve dans les aires protégées, ne seront jamais protégées. Pourquoi? Parce que personne ne doit pas accepter d'être dans la pauvreté alors qu'il peut aller au niveau du parc
trouver
le bois de chauffe, chercher une antilope. Il faut des activités alternatives pour que les aires protégées soient protégées et ces dernières puissent jouer un rôle important pour le développement de la République démocratique du Congo. Je voudrais demander à tous ceux qui nous suivent maintenant, je reviens sur ça, de bien lire le programme présidentielle de lutte contre la pauvreté et les inégalités en République. Nous avions eu en tout cas cette autorisation de publier ça sur le site Yadev Agogo. Quand vous entrez sur la page d'accueil, en bas, vous allez voir là-bas présidentiel, programme, et lisez ce programme. C'est ainsi que nous sommes en train de dire, comme vous l'avez dit aussi, la lutte contre la pauvreté, elle est multisectorielle. Il n'y a pas que l'agriculture. Avec les aires protégées, nous pouvons lutter contre la pauvreté. Avec tout ce que nous avons comme mine, nous pouvons lutter contre la pauvreté. Il y a notre ami qui nous dit, nous avons beaucoup, la biodiversité, les aires, mais il n'y a pas que les aires protégées qui n'ont pas profité au peuple congolais. Il y a les diamants qui n'ont jamais profité au peuple, il y a les cobalts qui n'ont jamais profité, il y a les coltans qui ont amené la guerre, la désolation, au lieu d'amener le bonheur, mais c'était finalement, c'est une catastrophe humaine. Donc, toutes les ressources naturelles que nous avons, toutes les richesses que nous avons n'ont jamais apporté du bonheur, n'ont jamais apporté de la joie au peuple congolais. Pourquoi? Tout cela, c'est très bien décrit dans le programme présidentiel. Nous avons érigé tout ce qu'il y a comme antivaleur en valeur. Et c'est tout à fait normal que vous soyez riche naturellement avec les diamants, le cuivre, les parcs nationaux, les aires protégées. Mais en termes de biens et services, vous êtes les plus pauvres de l'humanité. Mais parce que vous êtes dans la corruption.
Et il y a aussi un problème dans quel état se trouvent ces aires protégées. Prenez par exemple les jardins botaniques de Kisantu ou de Yala. Dans quel état se trouvent aujourd'hui ces...
Oui, mais en fait, la réponse est claire. Pourquoi ces jardins, pourquoi ces aires protégées se trouvent aujourd'hui dans un état de délabrement? C'est à cause exactement de la corruption. C'est à cause des trafics d'influence. C'est à cause des détournements. Parce que...
De la mégestion.
C'est tout ça. C'est toutes ces antivaleurs qui ont fait aujourd'hui que tout ce que nous avons comme richesse en termes de biodiversité, en termes des aires protégées, ne profite pas. Ça se trouve dans un état de délabrement, mais ce sont des politiciens et autres qui se retrouvent. Mais le peuple lui-même, il est abandonné, il est dans la précarité et la misère la plus totale. Alors, le moment n'est plus de se plaindre, parce que notre ami qui a appelé de Kananga dit, mais que faut-il faire? À Kananga, il n'y a même pas un jardin botanique, il n'y a même pas une aire protégée. Mais que faut-il faire? Nous disons que la lutte contre la pauvreté n'est pas l'affaire du président de la République, n'est pas l'affaire du gouvernement seul, mais c'est l'affaire du pouvoir public, c'est l'affaire des organisations de la société civile, c'est l'affaire du gouvernement aussi, des gens qui sont dans les provinces. Je ne vois pas en quoi cela peut poser un problème si le gouvernement provincial de Kananga prend l'engagement, même s'ils n'ont pas d'argent, mais avec l'appui des partenaires, avoir un très bon jardin de 10 000 ou de 15 000 hectares. Ça sera une source de revenus, même pour l'autorité provinciale. Mais il faut ce genre d'initiative. On est toujours en train de revenir sur des petites choses. Il faut sortir de ce qui existe, innover et créer des richesses pour le développement de la République. C'est possible. Pour la ville de Kinshasa, il n'y a plus de jardin botanique. Mais on peut en créer un autre jardin. Il y a beaucoup de terres qui ne servent à rien. et finalement peut-être qui peuvent être utilisés pour telle activité, mais ces terres-là peuvent être affectées à la construction de nouveaux jardins ultra modernes. Et ça va être une source de revenus pour le gouvernement provincial, ça va créer des emplois, et il y a des revenus qui vont être générés pour l'intérêt de tout le monde. Donc voilà.
Alors, il y a Melado qui nous a parlé du parc de la Garamba, où il y a des rhinocéros blancs, mais il se demande qu'est-ce que cela n'a rien apporté aux populations.
Nous avions déjà répondu, il n'y a pas que les rhinocéros qui n'ont jamais rapporté quelque chose à la République démocratique. Les rhinos n'ont rien rapporté, tout comme les diamants, je l'ai dit, n'ont rien rapporté, le cuivre n'ont rien rapporté, le peuple reste toujours pauvre. Tant que nous continuerons avec des antivaleurs, la corruption et tout autre, tout ce que nous avons comme richesse ne vont rien nous servir. C'est ainsi qu'il est très bien détaillé dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités en République démocratique du Congo, que l'érection des valeurs aujourd'hui en République, la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion des ressources de la République démocratique du Congo, mais tous ces éléments vont faire en sorte que nos richesses puissent se transformer en biens et services. Pas pour les intérêts de quelques individus, comme on l'a vu la fois passée, des gens qui sont au pouvoir, qui sont dans la gestion de ceci, de cela. Ce sont des millionnaires, ce sont des patrons. Mais quand vous voyez les peuples qui se trouvent à côté, mais c'est vraiment
c'est comme le jour et la nuit.
C'est comme le jour et la nuit. Donc ce sont ces genres de pratiques qu'il faut abandonner. Il faut qu'il y ait une grande volonté, une grande détermination du côté des autorités de la République et surtout du président de la République pour que les choses changent. Et c'est ces changements qu'il faut accompagner pour que le Congo cesse d'un pays qui a beaucoup de richesses, mais avec un peuple très, très pauvre. Ça doit s'arrêter. Et ça ne peut s'arrêter qu'avec l'engagement et la détermination de tout le monde. Il est vrai, mon frère Jody, vous allez me laisser, que ce vent de changement ne doit pas être appuyé par tout le monde. Il y a des gens qui veulent que les aires protégées restent toujours dans cet état de délabrement, parce qu'il y a des politiciens autres qui tirent
les intérêts. Des gens qui tirent les intérêts derrière.
Et mais il appartient au peuple souverain. Il appartient.
On parlait même de l'exploitation du pétrole dans un parc.
Mais tout ça, mais les gens qui veulent que les parcs restent dans cet état trouvent de l'intérêt dans ça. Mais il appartient au peuple souverain. Il appartient aux organisations de la société civile. Il appartient au pouvoir public de pouvoir s'imposer, dire non, trop c'est trop, il faut que ça change. Et les changements doit partir de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, faire des aires protégées de la République démocratique du Congo des outils importants pour combattre la misère, la précarité en République démocratique du Congo.
On va accueillir Jiresse Emaka depuis Bandundouville. Bonjour Jiresse.
Bonjour Jody.
Nous parlons des aires protégées qui peuvent et leur contribution dans la lutte contre la pauvreté en RDC. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, je dis merci beaucoup. J'ai plus une contribution à faire que des questions à poser. Alors, je dis d'abord ceci. Aucun développement durable ne peut se faire sans pour autant recourir aux ressources naturelles. D'ailleurs, les 17 ODD du millénaire ont presque tous un rapport, si pas direct et indirect, avec l'environnement. Raison pour laquelle l'homme doit s'investir pour protéger toutes les espèces de la flore et de la faune. C'est la raison d'être des aires protégées. Au-delà de leur capacité de pouvoir générer les ressources financières à travers le secteur touristique, un protégé constitue une raison importante pour la santé humaine. D'ailleurs, pour fabriquer le médicament, on recourt bien sûr à la nature, on recourt bien sûr aux plantes, à certaines plantes médicinales. Mais malheureusement, que nombreux sont ceux qui ne comprennent pas que nous avons intérêt à pouvoir protéger la nature. C'est que vous verrez, parfois, on fait de l'investissement sans pouvoir tenir compte des aires protégées, sans pouvoir tenir compte des normes environnementales. Donc si l'homme ne peut pas, si l'homme ne comprend pas, parce que les Congolais ne comprennent pas, qui doit s'investir à protéger la nature, demain nous allons nous promener, demain nous allons manquer de médicaments, demain nous allons manquer de nourriture, parce que les ressources naturelles sont la base ou le socle sur lesquels l'homme est assis. Voilà pourquoi nous devons faire un effort. Mais malheureusement, si vous permettez, je dis, il y a une espèce de plante épineuse qui, il y a quelque temps, était dans la ville de Bandundu. On les utilisait pour pouvoir faire les haies, donc clôturer les parcelles. Mais donc cette plante, communément appelée Mbaka, était fauchement accusée. On disait que cette plante était à la base du sous-développement de cette ville. Alors, partout, on les a coupés et il y a plus de 10 ans que cette plante a été éliminée de la ville. Et nous ne voyons rien changer. Donc, c'est pour dire que et même les intellectuels se sont investis pour que cette plante soit exterminée. Donc, c'est vraiment regrettable. Donc, si nous ne comprenons
merci,
pas,
je vais être... pas directement des autres. D'accord. Merci beaucoup. On va accueillir Alpha de Coloisi. Nous parlons des aires protégées et de leur contribution dans la lutte contre la pauvreté. Alpha, vous êtes à Coloisi. Bonjour.
Bonjour, M. Jody Kachama. Vous allez bien?
Très bien, merci. Quelle est votre question? Quelle est votre question, Alpha?
Nous avons une préoccupation écologique.
Oui.
Je remercie d'abord l'invité par rapport au sujet parce que c'est vraiment important. Écologie, il y a un problème. Tous les espaces sont vendus par les miniers. Vous vous imaginez, même s'il faut implanter un site zoologique ou botanique, on va l'implanter où? Parce que l'État lui-même prend tous les espaces et est en train de vendre chez les miniers. C'est un problème, on va recadrer des trous. Je ne sais pas si ces trous-là peuvent nous aider à aller visiter en termes de botanique et de zoologie. Et aussi, il y a des privés qui s'investissent pour faire un jardin là. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de gibier. Vous savez, nous sommes dans un contrée vraiment où il y a des problèmes d'animaux. Aujourd'hui, les braconniers, les chasseurs, ils ont tout vidé. Nos enfants sont en train de souffrir, je vous dis, pour connaître même un simple gibier ici. On ne sait pas c'est quelle vraiment façon de vivre. Alors nous demandons à l'État congolais de s'investir. C'est bien. Éradiquer la pauvreté, c'est tout un processus. L'État, s'il est en train de ratifier des textes pour éradiquer la pauvreté, c'est bien. Mais comment l'applicabilité, c'est là où il y a des problèmes.
Et d'accord, merci Alpha d'Ecologie. On va accueillir Junior de Walikale, il est au Walikale au Nord Kivu. Junior, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour monsieur à la radio Kapi et bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation, Junior?
Oui, c'est une préoccupation très préoccupante parce que ça c'est une bonne émission. Nous sommes à Walikale, nous sommes en cheval du parc national de Kahuzi-Biega. Qui s'abat à altitude de 100 jusque dans le territoire de Walikale, dans le secteur de Bakano. Jusqu'à maintenant, la population de Bakano vit en conflit avec ces parcs parce que l'État congolais avait promulgué ces parcs depuis 1970. Mm-hmm. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de réelles limites qui séparent la zone protégée et la zone de chasse de la population. Voilà. Il n'y a ni emploi pour la jeunesse, et il n'y a ni de micro-projets pour la population environnante. Voilà, maintenant la population est en train de menacer ce parc, et les gardes du parc commencent maintenant à menacer la population. Maintenant, j'aimerais demander quels sont les mécanismes que l'État met en jeu afin de mieux protéger ces aires, et aussi, et quelles sont les contributions efficaces afin de maintenir cette population qui vit dans les misères, et la survie, et aussi pour le développement social de ces milliers.
Merci Junior. Imani, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Oui, bonjour la radio Okapi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre question, Imani?
Oui, je voulais m'adresser au monsieur, au chercheur de la faculté de sciences agronomiques. Je suis étudiante de l'université de Bounia, sciences agronomiques. Vous parlez d'herbes protégées, lutte contre la pauvreté, c'est bon, c'est pas mal. Depuis qu'on a commencé à étudier, on nous parle souvent des jardins botaniques, mais on n'a jamais vu ces jardins botaniques. Chez nous, à Ituri, il y a l'insécurité, on a les problèmes d'aller visiter même les jardins botaniques. Et chez nous, à Ituri, il n'y a pas de parc, mais il y a la forêt à Mambasa. On a vraiment une difficulté de visiter la forêt. Maintenant, je voulais poser ma question. La lutte contre la pauvreté, herbes protégées, c'est pas mal, c'est bien. On parle de tourisme. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous-mêmes, en RDC, nous sommes du domaine, il y a les ingénieurs, il y a des médecins vétérinaires, il n'y a pas moyen que nous-mêmes pouvons créer ces herbes protégées, nous pouvons créer ces herbes chez nous et faire notre recherche pour que la pauvreté ne soit pas chez nous en RDC.
Bien, merci Imani. Alors, on va donner la parole à Mardoché d'Egbadolité. Bonjour Mardoché.
Bonjour Jody et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Je veux donner un témoignage et pour terminer par une question.
Oui.
Ici nous avons un jardin zoologique ici chez nous, créé par le maraîcher Mobutu.
Oui.
Et dans ce jardin nous avons des espèces, des animaux. Mais malheureusement, après la chute de Marichal, les gouvernements qui se succèdent ont laissé ce jardin. même les serpents, c'est-à-dire les bois qui se trouvent à l'intérieur, les serpents ne sont pas à nourrir, les travailleurs non payés. Et il y avait un jour où les serpents, comme ils ne peuvent pas mourir, rester dans la cage et mourir de faim, les serpents s'est faufilé pour sortir, chercher quelque chose à manger. Mais malheureusement, il s'est tombé devant un monsieur quelconque là qui l'a tué et l'a mangé. Donc, tous les animaux qui se trouvent dans le jardin sont déjà détruits et les animaux fuient parce qu'on ne les nourrit même pas. Et
ils meurent de faim, quoi.
Les travailleurs ne sont pas payés. Alors, j'ai une question à poser à l'invité.
Oui.
Quel est le rôle des jardins que crée l'État congolais sur toute l'étendue? Le rôle, c'est pour aider seulement aux touristes de visiter ce jardin ou d'aider aussi la population du milieu. Alors si c'est le rôle d'aider les touristes, pourquoi l'État congolais ne prend pas en charge ce jardin? Il se focalise seulement sur les problèmes des mines, les matières du sous-sol, et si longtemps que le jardin qui peut aussi aider la population est là, non protégé et non pris en charge. C'est ça ma question.
Merci Mardos et professeur Jean-Didier.
Merci. Nous commençons par la préoccupation de notre ami Mardoché qui dit que le jardin qui a été abandonné à Guadeloupe depuis des années...
Créé par le maréchal Mobutu aujourd'hui n'est plus que l'ombre.
Plus que l'ombre, se trouve dans un état de délabrement. Est-ce que ces jardins ont été créés pour l'intérêt des touristes ou soit c'est pour l'intérêt également des populations locales? Non, lorsqu'on crée un jardin botanique ou un jardin zoologique, il y a plusieurs objectifs qui sont poursuivis. Vous avez les objectifs de la conservation. Ici, c'est plus la conservation au niveau naturel. C'est vraiment un élément naturel qui est amené dans un autre endroit qui doit être conservé. Donc, l'intérêt, pas seulement pour la conservation, mais l'intérêt également est sur le plan social, mais également sur le plan économique. Sur le plan social, c'est que le jardin, lorsqu'il est là, lorsqu'il y a des touristes, il n'y a pas que les touristes, mais les visiteurs, la population. On ne crée pas un jardin forcément pour les gens qui doivent venir d'ailleurs, mais le jardin est créé d'abord pour l'intérêt des communautés, de la population environnante. Donc, j'ai senti un sentiment d'abandon. Et les gens pensent qu'il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'espoir. Je voudrais dire ceci. Parce que beaucoup de gens à Bounia, il n'y a pas de jardin botanique. Oui, c'est vrai.
L'étudiante, Imani, elle étudie, elle apprend, mais elle n'a jamais
mais vu ça. Et c'est très important. Aujourd'hui, nous avons 26 provinces. La création des nouvelles aires protégées, et plus particulièrement les jardins zoologiques et botaniques, dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo.
Faut-il en créer d'autres au moment où on n'arrive pas à gérer ces
problèmes? Mais il faut en créer d'autres. Il faut en créer d'autres. Moi, je donne l'exemple de Kinshasa. Ça, c'est plus un jardin botanique. C'est un marché.
Ce n'est même plus un jardin zoologique.
Les conditions qui ont prévalu à la création de ces jardins ne sont plus les mêmes. Les choses ont beaucoup changé. Mais il faut changer, il ne faut pas rester statique. Les jardins de 1930, et c'est ça que vous continuez à utiliser jusqu'à aujourd'hui, avec la pression sur la terre.
Et les jardins zoologiques, par exemple, à côté, parfois, les écoles amènent les enfants, mais c'est invivable, parce qu'il y a une morgue à côté qui sent mauvais, et c'est pas possible d'amener les enfants tout le temps là-bas.
C'est pourquoi je plaide pour la création de nouveaux jardins zoologiques et botaniques sur les 26 provinces de la République démocratique du Congo. La question fondamentale qui se pose, parce que les Congolais disent c'est le président de la République, c'est le gouvernement. Non. Nous disons que dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et les inégalités en République démocratique du Congo, qui sont les acteurs? D'abord, c'est le pouvoir public, les organisations de la société civile, les entreprises, la FEC, les individus, les privés, les chercheurs, les organisations de la société civile. Donc, une organisation de la société civile basée en Ituri ou à Bounia peut prendre l'initiative de créer, parce qu'il y a déjà des gens, de créer un jardin ultra moderne pour l'intérêt des communautés.
Professeur Jean-Dieu, pourquoi ne pas trouver des fonds réhabilités d'abord les jardins et les
aires
qui existent, trouver des frais de fonctionnement, tout ça réhabiliter pour que ça génère des fonds et ensuite envisager en créer d'autres.
Je suis d'accord avec vous, il y a ce qu'il faut réhabiliter, mais il y a des endroits où il n'y a pas de réhabilitation. Il y a tardement la création de nouveaux jardins. Quand on est à Bounia, on a parlé de Kananga, il n'y en a pas. Vous allez réhabiliter quoi? Il faut créer. Et mais ça va être une source de revenus. Donc, le moment n'est plus de trop se plaindre. Le moment, c'est de nous lancer au travail, chacun à ce qui le concerne, pour qu'il joue un rôle constructif, un rôle positif, pour que la lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo, qui est multisectorielle, puisse se faire avec les efforts et l'appui des filles et des fils de la République démocratique du Congo. J'ai beaucoup aimé...
Qu'est-ce que vous pouvez dire à Alpha de Kolwezi? Il dit à Kolwezi, c'est il n'y a pas d'espace où on peut aménager les jardins parce que c'est tout est vendu aux miniers.
Oui, en fait, c'est ça. Je crois qu'il y a un travail qui est en train de se faire au niveau de ce que nous appelons le ministère d'aménagement du territoire et rénovation des villes. Tant que la République démocratique du Congo ne sera pas aménagée, mais il y aura toujours tous ces problèmes. C'est vrai que l'impunité a joué un rôle négatif par rapport au développement socio-économique de notre pays. Il n'y a pas que des espaces à coloniser. Quand vous voyez ce qu'on appelle les jardins de l'Ansele, qu'est-ce qui reste? Mais près de 50% de la superficie expropriée, où cette superficie a été prise de force par les hommes forts. Mais c'est ça qu'il faut. En fait, c'est ce travail. Aujourd'hui, comme on parle de la lutte contre la corruption, l'impunité, tout ça, ça va permettre à ce que le pays rentre sur la voie du... Parce que tant que les antivaleurs vont continuer à s'ériger comme valeurs en République démocratique du Congo, et aujourd'hui, comme vous l'avez dit ici, on ne réglera aucun problème de la société. Et ça, c'est très important.
Junior de Walikale est revenu sur l'affaire de Kaouzi Biega. Il dit la délimitation entre l'air protégé et les espaces de chasse, c'est pas très clair. Et il y a trop de problèmes là-bas avec la population. Les gens exercent la pression sur l'air protégé.
Nous l'avons dit au début, c'est que tant que les populations qui entourent les aires protégées seront toujours dans la misère, dans la précarité, les ressources qui sont dans les parcs ou dans un domaine de chasse ne seront jamais protégées. Pour que les aires protégées jouent un rôle important dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, nous devons développer des activités alternatives aux populations. Je donne un exemple. Aujourd'hui, les gens ont besoin de terres pour réaliser l'agriculture. Une bonne partie des terres villageoises, mais cette partie a été affectée à la constitution d'un parc, je donne. Mais comment les gens doivent vivre? Parce que nous faisons ce qu'on appelle l'agriculture itinérante sur brûlis. Vous devez passer d'un hectare à un autre en fonction des années. Mais les terres pour passer comme ça d'un moment à un autre n'existent plus. Mais c'est l'occasion aujourd'hui de sensibiliser les gens sur les pratiques agricoles durables où vous pouvez rester sur un hectare, réaliser la production agricole pendant des années sans toutefois chercher de nouvelles terres. Les gens qui vivent de la chasse,
il faut développer les gens. Cette année ici, il faut aller laisser la terre en jachère.
Il faut développer des pratiques, l'agroforesterie, l'agriculture et l'agriculture de conserve. Ce sont des pratiques agricoles qui peuvent faire en sorte que les gens cessent ce qu'on appelle l'agriculture itinérante sur brûle pour se lancer dans une pratique beaucoup plus durable, l'agroforesterie, l'agriculture de conservation, pour que les espaces affectés, la constitution des aires protégées, soient au moins respectés et protégés. La pauvreté de la population riveraine ne facilitera jamais une gestion responsable des aires protégées en République démocratique du Congo.
Donc ces aires ne pourront pas contribuer.
C'est comme je l'ai dit.
Ouais.
La lutte contre la pauvreté, ou soit la lutte contre la pauvreté et les aires protégées sont liées. Si les gens sont très pauvres, les aires protégées ne vont pas être bien gérées.
Oui.
Mais les aires protégées aussi peuvent jouer un rôle important dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Donc ce sont des stratégies qu'il faut mettre pour que l'un ou l'autre puisse jouer un rôle important dans le cadre de ce que nous appelons le développement durable.
On va terminer cette émission avec l'ingénieur Serge Kingi qui nous appelle de Kindu. Ingénieur Serge, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour aussi à notre invité du jour.
Quelle est votre préoccupation?
En tout cas, nous félicitons en tout cas les sujets du jour. Nous félicitons en tout cas à notre intervenant. Pour ne pas tarder, vous savez monsieur le journaliste, il y a un problème entre les gens de lotissement, des cadastres. Malgré tout, nous pouvons faire la création des jardins botaniques, des espaces verts, des aires protégées. C'est là, tôt ou tard, ça coûtera un peu des problèmes face à la création des lotissements. Mmh. Alors, ma question, j'aimerais s'adresser à notre invité. Quels sont les critères pour avoir un jardin botanique? Et ça doit occuper combien d'hectares? Puisque, si je me rappelle bien, dans d'autres jardins dont je suivais là, et à là, d'autres parties là, il y avait des mangoustans, des bambous de Chine, des poissons là, qui n'ont pas des yeux. Alors, comment faire la sélection de ces espèces-là en voulant créer un peu un jardin botanique? Et ma dernière préoccupation, nous avons l'invité là au niveau du plateau qui nous dise d'abord dans quelle province parmi nos 26 provinces, dans quelle province il a
la vision de créer, avec l'initiative du chef de l'État, de créer un peu un nouveau jardin botanique en République démocratique du Congo. Puisqu'on en a mal. On en parle toujours des jardins botaniques. Moi-même, je suis victime de ne jamais vu ça. Je suis victime, sans avoir des images, je ne devrais pas voir en tout cas des animaux, voire même des poissons, ou soit de quoi que ce soit. En tout cas, nous sommes victimes en notre pays, là où les autres viennent regarder dans nos jardins. Oui. Moi-même, Congolais, je suis privé de ça. C'est pas bien.
D'accord. Merci, ingénieur Charles. Il faut se déplacer, aller par exemple à Kisantou. Ouais, et là, vous aurez l'occasion de...
Il faut avoir des moyens.
Il faut avoir des moyens pour
se déplacer.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure?
Pour conclure, nous voulons dire à notre ami Serge et à tous ceux qui nous écoutent maintenant, c'est que... il y a beaucoup de coins de la République démocratique du Congo où on ne parle pas d'aires protégées, on ne parle pas de parcs, on ne parle pas de jardins botaniques et zoologiques. La loi autorise la création même des espaces communautaires pour la conservation. Dans quelle province où nous avions l'idée de pouvoir créer un jardin? C'est dans toutes les provinces de la République démocratique. Je suis de ceux qui pensent que dans l'état actuel des choses, toutes les provinces de la République démocratique du Congo doivent être dotées d'un jardin botanique et d'un jardin zoologique ultra-moderne. Cela va dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et des îles. Avec les aires protégées de la République démocratique, nous pouvons lutter contre la pauvreté, nous pouvons créer des emplois pour les jeunes. C'est possible, mais il faut de la volonté, il faut de l'engagement de tous.
Bien. Professeur Jean Dédieu Minengou, vice-doyen, chargé de la recherche à la faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa, merci.
Merci.
Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.